On commence? C'est parti. On y va. Alors, au préalable, vous savez que j'essaie de vous faire je vous encourage à vous rendre dans des événements qui sont critiques, on va dire. Mais aussi, je vous encourage à aller voir parfois ce qui se passe dans des conférences qui sont un peu étonnantes. Et donc, j'étais sur le site de l'Or du Temps, voir ce qu'il y avait de neuf. Parlez doucement, s'il vous plaît, pour ceux qui sont à côté de vous et qui commencent à suivre le cours. Merci. Et donc, regardez, il y a pas mal de choses, depuis le massage ayurvédique ici, la reconnexion à soi, l'initiation au pendule, les lithothérapies, du shiatsu, les extraterrestres et nous, l'Écosse, terre des Celtes. Oula, ça, c'est tout un programme, ça. Voilà, immobiliser le corps, élever l'âme. Il y a plein de choses tout à fait étonnantes. La librairie L'Or du Temps, d'ailleurs, propose tout un tas de ressources assez étonnantes. Et d'ailleurs, on a aussi une partie de ces ressources nous-mêmes à notre bureau. Dans notre bureau, c'est une bibliothèque qui est un peu une sorte de ce qu'on appelle parfois les enfers, c'est-à-dire l'endroit où les bibliothèques mettent des bouquins qu'on ne peut pas laisser à disposition à tous les étudiants sans précaution d'usage, quoi. Et il y a des théories fracassante, quoi. Ça va de Mein Kampf, si vous voulez, pour prendre le pire qui existe, jusqu'à, je sais pas moi, l'Atlas de la création de Harun Yahya, l'énorme livre créationniste musulman qui avait été envoyé dans tous les CDI de France il y a de cela 7 ou 8 ans maintenant, un livre qui pèse 8 kilos, qui est très gros, surfinancé par des groupes islamiques assez connus d'ailleurs. En tout cas, voilà, et ici je reprends le fil de mon diaporama et je vous indique les cours. La semaine prochaine, nous avons cours. Nous parlons de sexe et genre. Et le mardi 28, nous n'avons pas cours. Ne venez pas. Ici, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, moi, je ne serai pas là. Mais je vous retrouverai le 4 avril, puis le 11. Le 18, vous aurez des vacances bien méritées. Le 25, ce sera l'avant-dernier cours. Et le 2 mai, vous me rendrez un travail merveilleux qui changera la face du monde. Voilà. Une question m'a été posée, que j'ai trouvée vachement intéressante. C'était aujourd'hui, un groupe d'étudiants qui m'a demandé... qui m'a posé une question qui montre qu'il y a des points quand même qui restent peut-être un peu nébuleux dans certains des esprits des étudiants. C'est bon, vous êtes prêts? La question était, c'est un groupe qui veut travailler, peu importe, hein, ils veulent travailler sur un modèle psychologique qui est connu sous le nom de Disney, le modèle Disney. Et moi, je leur disais, dans la démarche, il s'agit d'aller chercher d'abord toutes les ressources qui sont critiques de ce modèle. Et alors, la question qui m'était posée, c'était, oui, mais alors, est-ce que si on recherche que des ressources critiques dans un premier temps, est-ce qu'on ne va pas faire un biais de confirmation négatif en cherchant que des publications qui sont négatives sur le sujet? Et j'ai répondu qu'en fait, j'ai utilisé une petite métaphore. Une théorie, c'est un peu comme une corde d'escalade, quoi. Avant de la mettre sur le marché, il vaut mieux vérifier si elle est solide. Et donc, la démarche pour vous qui êtes des sceptiques, c'est de douter a priori. Ça ne veut pas dire de considérer que les choses sont fausses, mais de douter a priori, de vous dire, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser que cette théorie ou ce modèle tienne la route? Et auquel cas, vous allez vous-même exercer le plus de critiques possible. Et si votre théorie ou votre modèle résiste à ces critiques-là, alors votre modèle est suffisant et vous pouvez le garder, quoi. Mais ce n'est pas en allant chercher des publications qui vont dans le sens du sujet que vous allez l'accréditer, quoi. Il faut voir à quelle critique le modèle est assujetti. Est-ce qu'elles sont vraiment complètement destructives et le modèle s'effondre? Auquel cas, ça y est, le problème est réglé, quoi. Et une fois que vous aurez vu que les critiques n'atteignent pas leur cible, alors vous pouvez regarder qu'est-ce qui vient conforter le modèle dans un deuxième temps. Et là, après, vous pouvez rendre un avis et dire, ah ben oui, ce modèle tient la route ou ce modèle vraiment ne tient pas la route, quoi. Donc, ce n'est pas un biais de confirmation d'hypothèse au départ que de chercher des ressources critiques sur un sujet. Vous devriez faire la même chose. On devrait tous faire la même chose sur... Je sais pas, vous avez un avis sur la politique en Crimée, par exemple. Si vous avez une opinion préalable, normalement, la démarche intellectuelle qui est la plus saine, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je pense et qu'est-ce qu'ils en disent? Et je lis tout ce qui se fait, et si je maintiens quand même mon jugement après l'avoir soumis à toutes les critiques, alors c'est que mon jugement a plutôt de bonnes chances d'être bon, quoi. C'est la meilleure méthode, hein. Donc c'est comme une corde d'escalade. Pour savoir si elle tient bien, il faut faire des tests avant de la mettre sur le marché, quoi. Voilà, donc je répondais à ça. J'ai fait une erreur dans le volontaire la semaine dernière, et je vous avoue que j'ai failli pas la retrouver. Je me disais, mais où elle est cette erreur? Qu'est-ce que j'ai mis déjà comme connerie? Et en fait, la connerie était dans la diapo numéro 14. Personne ne l'a trouvé, à mon grand désespoir. Et la diapo 14, je parlais de Sam Cass, puis après je vous ai montré un extrait de The Big Bang Theory, vous vous rappelez, saison 2, épisode 8, je crois, où il y avait un Shifumi élaboré, qui est d'ailleurs représenté sur mon t-shirt. Et Sam Cass était donc le co-auteur de ce nouveau Shifumi, avec Karen Cheryl. Mais en fait, Karen Cheryl, c'était pas Karen Cheryl, c'était Karen Brilla. Alors Karen Brilla, c'est une brave dame sympathique, peu importe. Mais qui est Karen Cheryl? Donc, alors Karen Cheryl, pour ceux qui ont un peu la mémoire un peu longue, c'est un événement dans la sphère musicale française. Alors je vous en ai bien un petit bout quand même.
Si il aime la neige et les enfants.
Ah, c'est rude, hein. Ah, c'est rude. J'ai grandi avec ça, moi. J'ai survécu à ça.
Si il pense un peu comme je pense.
Ouais, les années 80, c'était raide.
J'ai gagné d'avance. L'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique qui joue fort, c'est même encore un peu plus fort.
Je sais pas si ce sont les paroles qui comptent vraiment dans cette chanson. Ouais, bon. Voilà, arrêtez de croire ce qu'on vous raconte dans les cours. Il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte dans les cours, il faut les vérifier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que l'erreur involontaire du cinquième cours, il y avait une erreur involontaire qui m'a été corrigée. Notamment, je crois qu'il y a deux personnes qui me l'ont dit, mais une, je n'ai pas son nom. Et une qui s'appelle Lucie Defleur et qui m'a dit « Monsieur, vous avez parlé de l'effet Hawthorne. Vous savez, Hawthorne, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis qui consistait à faire varier la luminosité dans un contexte de travail pour des ouvrières à la chaîne et de voir si, en augmentant la lumière ou en la baissant ou en la mitigeant, on obtenait des résultats différents en termes de production. » Et le type qui avait lancé cette étude et qui montrait qu'en fait c'était pas tant la luminosité qui jouait sur la production, mais le fait que les gens, se sachant inclus dans un protocole, avaient tendance à devancer l'attente du psychologue et se disaient si on me teste, c'est que probablement on essaie d'évaluer si je travaille plus vite. Et en fait, tous les groupes ont travaillé plus vite, si vous voulez. Et donc on appelle cet effet-là de devancement par le sujet de ce qui est attendu de lui, l'effet Hawthorne, H-A-W-T-H-O-R-N-E. D'accord ? Et j'ai dit que le type s'appelait Ernst Mayo et je me suis foiré, parce qu'en ce moment je lis Edzard Ernst, qui est un auteur allemand qui produit beaucoup de documentation sur les médecines alternatives. Et donc j'ai dit Ernst, c'est pas Ernst, c'est Elton. Donc merci Lucie, tu as gagné une extraordinaire araignée. Elle est là Lucie ? Ah bon, alors attends. Bon, l'araignée sera pour le prochain. Un poulpe, ça te va ? Un petit poulpe rose. Voilà, il est là. Merci. Tu n'es pas poulpophobe ? Ok, cool. Est-ce qu'il y avait des erreurs involontaires dans le dernier cours ? Alors oui et non, il y a des gens qui me doivent des cadeaux, hein, mais bon, je sais pas, ils arrivent jamais, ces cadeaux, mais c'est pas grave. La trêve de Noël 1914, c'est les trêves. Alors il y a eu plusieurs trêves en vrai. À mon corps défendant, il y a eu plusieurs trêves. Des trêves, c'est pas vraiment des fraternisations, mais je vous ai parlé du fait que dans les tranchées allemandes et françaises et britanniques, il y a eu des formes de moments un peu de partage, notamment autour des fêtes de Noël. C'était le cas à Noël 14, plusieurs fois. C'était, il me semble, une fois au moins en 1915 le cas à Noël. Pâques 1916 aussi, mais pas Noël 1916. Donc je me suis foiré. C'est pas Noël 1916, mais plutôt, on devrait parler vraiment de Noël 1914. Ça a été l'objet d'un film. Je vous l'ai dit, un film avec Danny Boone, réalisé par Danny Boone, il me semble, qui est un film avec Guillaume Canet, je ne sais plus qui, j'ai vu ça il y a quelques années. Donc c'est Armel Zitouni qui me l'a dit, entre autres, il y a une autre personne qui me l'a dit, mais j'ai oublié. Donc Armel Zitouni, tu gagnes l'araignée. Est-ce que tu es là, Armel ? Elle n'ose pas le dire. Non, c'est pas toi, Armel, c'est sûr. Non, pas d'Armel. Bon, ben écoute, Armel, si tu m'entends, si ton corps astral flotte dans cet amphithéâtre, viens chercher ton cadeau. On m'a écrit, oui, vous êtes foiré, c'est pas le dilemme, ça doit pas être itératif, ça doit être interactif. Non, c'est itératif, c'est-à-dire qu'on répète le dilemme plusieurs fois, c'est un mot précis, itératif, voilà, non, je ne me suis pas trompé. Donc la personne qui m'a dit ça, je n'ai pas son nom, mais c'est toi ? Tu me dois un cadeau, très bien. Et après j'ai eu un doute qui m'a obligé à re-regarder La Fureur de Vivre avec James Dean, que je n'avais pas vu depuis des millénaires. Parce que je vous ai dit que le jeu de la poule mouillée... Alors je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit en fait. Parce que j'ai vu un autre film après, dont j'ai oublié le titre, qui montrait un jeu du même genre. Et alors, je me rappelle plus ce que je vous ai dit, en fait. Donc, pour être précis, dans le cas du jeu de la poule mouillée, dans le film, les deux conducteurs sont l'un à côté de l'autre, et c'est celui qui se sautera le premier de la voiture à l'approche de la falaise. Donc ils sont en train de foncer à toute blinde vers une falaise, et la poule mouillée, c'est le premier qui sautera de la voiture, quoi. Le dernier qui saute de la voiture étant le gagnant. Mais évidemment, les risques sont immenses qu'il se fracasse. D'ailleurs, je peux vous spoiler le film parce qu'il a plus de 50 ans, mais il y en a un qui meurt évidemment dans le jeu, et ce n'est pas James Dean, qui lui mourra en vrai un peu plus tard et qui fera de lui un héros solaire. Qui a fortement nourri l'érotisme des années 50. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. James Dean. Voilà, donc j'ai dû re-regarder pour être sûr. Je ne sais plus ce que je vous avais dit. Donc, en tout cas, sachez que c'est ça. Et ce n'est pas deux voitures qui vont l'une contre l'autre, qui foncent l'une vers l'autre et dont l'une se détourne. Mais il y a un film qui montre ça aussi. Bon, le dilemme en soi, ça ne change pas grand-chose. Mais je voulais être précis sur cette question. Ce cours est dédié à Candace Newmaker. Candace, c'est cette jeune fille qui est en photographie ici. C'est l'une des histoires probablement les plus sordides que j'ai jamais entendues ou que j'ai jamais documentées. Rien que d'en parler, ça me fait des frissons. Et c'est une histoire que, d'ailleurs, si des gens sont en rade, il y a des gens qui veulent travailler sur les dérives sectaires. On n'est pas vraiment dans un cas de dérive sectaire là, mais on est dans un cas d'une thérapie qui dérape fortement. Donc si des gens sont vraiment en panne de sujet, ils peuvent prendre le sujet des attachment therapies, en anglais, les thérapies dites de l'attachement ou thérapie par contrition. En fait, quand on est Newmaker, je vous fais l'histoire en bref, c'est une fille, elle a 10 ans, hein. Enfin, elle a 7 ou 8 ans quand elle commence à avoir des petits problèmes avec sa mère adoptive. Elle était abandonnée, elle était placée. Elle est avec une mère adoptive qui s'appelle Newmaker, Jane Newmaker, si ma mémoire est bonne. Et Jane Newmaker se dit, il y a un problème, ça ne se passe pas bien entre nous, on va aller voir des thérapeutes pour ça. Et elle adhère à une technique, je crois qu'ils sont en Caroline du Nord. Et puis elle se rend très souvent, Jane Newmaker, chez des thérapeutes du Colorado, dont certains sont très très friands des méthodes dites attachment therapy. Alors je vous donne en bref ce que ça donne, les attachment therapies. L'idée, c'est que y a plusieurs formes, mais il y en a une principale qui est celle-ci. Quand quelqu'un n'est pas bien, probablement que son problème viendrait de son enfance, voire de sa période prénatale, et donc d'une grossesse qui n'était pas très très avenante, était très agréable. Et donc pour rééquilibrer ça, alors on ne sait pas trop quoi est-ce que ça va rééquilibrer, mais n'empêche que la proposition est faite de remettre l'enfant ou l'individu dans un contexte qui ressemble à une grossesse un peu artificielle qu'on va recréer, notamment au moyen de contention. C'est-à-dire qu'on va l'écraser, on va la mettre dans un sac, on va l'attacher, on va les mettre dans des cages. Il y a plein de méthodes différentes qui sont absolument toutes sordides d'ailleurs. Et pour le coup, la psychologue infirmière qui s'appelait Watkins, si ma mémoire est bonne, Watkins et la maman donc entrent dans un protocole de thérapie d'attachement et font des traitements à Candace. Et donc lors du procès qui a eu lieu après, la vidéo de ce qui s'est passé a été présentée au public, et ça a été un choc absolument terrible parce que ça dure 70 minutes et on assiste pendant 70 minutes à l'agonie de cette petite fille. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez une gamine de 10 ans qu'on met dans un sac en flanelle. Et puis que les thérapeutes qui se mettent à quatre, plus il y a la maman dedans d'ailleurs, rentrent dans un processus. Vous allez reconnaître l'absence du critère de Popper dedans. Hein. C'est qu'ils disent, on appuie dessus, on recrée l'utérus originel, et puis Candace, il faut que tu sortes. Et si tu veux pas sortir, c'est que tu veux pas assez sortir, et c'est que tu refuses de renaître, de revenir au monde. Et donc ils appuient dessus, et elle dit, mais moi j'étouffe là-dedans. Ah, mais c'est parce que tu ne veux pas sortir assez, il faut que tu veuilles plus, sors plus. Mais elle dit, mais moi j'étouffe là-dedans. Ah, tu refuses de guérir. Mais il faut qu'ils appuient de plus en plus. Au bout d'un moment, elle vomit, elle appelle à l'aide, elle hurle. Et pris dans leur délire thérapeutique, ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de la flinguer, quoi. Et ils pensent que son refus de sortir est dû au fait qu'elle refuse de guérir, quoi. L'objectif étant, normalement, pour eux, dans la théorie, c'est de sortir du sac et de pousser un hurlement qui serait une sorte de cri primal, ce qui rejoint une autre théorie qui s'appelle la théorie de Janoff sur le cri primal, etc. Enfin, il y a même des gens qui proposent des systèmes de rebirth, comme ça, des systèmes de revenus à la vie, de renaissance, qu'il faut faire 7 fois. Enfin, vous voyez, les thérapies parfois s'emboîtent entre elles, et donc vous avez parfois du rebirth qui est proposé au nombre de 7. La 7e fois, parfois, il faut le faire près d'un lac, genre dans un lac froid de Scandinavie ou de Russie, pour se réconcilier avec son moi dauphin. Alors à chaque fois, ça s'imbrique avec d'autres trucs. N'empêche qu'au départ, là, vous avez juste une thérapie de l'attachement qui rappellera pour le groupe qui travaille sur le packing à des choses très très poches sur le packing qui consiste à mettre des draps très froids et mouillés sur des enfants autistes. Technique qui est encore utilisée en France, technique d'obéissance psychanalytique qui est encore utilisée en France et qui fait scandale. Je crois que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette pratique. Et ça n'empêche pas certains de nos spécialistes français, psychanalystes, de faire ça. Donc il y a un groupe qui travaille là-dessus, mais il y a déjà eu 4 ou 5 dossiers d'étudiants sur le sujet. Donc si vous êtes intéressé, il y a déjà de la ressource, quoi. Donc Candice Newmaker, eh ben, 10 ans, sa vie s'arrête. Sous le poids d'une mère qui l'aime, quoi, enfin, qui est censée l'aimer et qui fait probablement ça pour son bien, et les thérapeutes sont là pour faire ça pour son bien. Donc cette pauvre gamine a vu sa vie écourtée, donc j'en parle parce que sinon on va l'oublier. Et c'est pas le seul cas sordide de dérapage navrant sur des thérapies dites d'attachement. Vous en trouverez un paquet si vous tapez Attachment Therapies et vous regardez sous l'angle sceptique le sujet, vous aurez beaucoup, beaucoup de critiques et de drames. Voilà, ça c'est Candice Newmaker. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est une question qui revient très très souvent dans, on va dire, dans la réflexion zététique, si vous voulez. C'est un sujet qui est très chaud sur le plan affectif, parce qu'on l'a déjà vu quand on a parlé de ce qu'on appelle les escalades d'engagement. Plus ça fait longtemps qu'on adhère à une théorie, ou plus ça fait longtemps qu'on adhère à une idée ou une cognition, plus ça fait longtemps qu'on adhère à une thérapie, plus on aura du mal à être critique vis-à-vis d'elle, parce qu'on aura notamment investi beaucoup de temps, éventuellement de l'argent dedans, et que c'est très difficile de reconnaître qu'on s'est trompé de choix au départ, quoi. On est tous sujets à ça, et à cette résolution de dissonance cognitive plutôt hasardeuse que l'on fait envers des choix qu'on a nourris pendant longtemps. Donc les médecines alternatives, c'est un sujet chaud, c'est le sujet généralement sur lequel on s'engueule à la maison, c'est le sujet quand on en discute à table qui part toujours en cacahuète. Vous pouvez animer des soirées complètes rien qu'avec le sujet de l'acupuncture, ou de la psychanalyse ou de... Alors bon, psychanalyse, c'est un domaine, on pourrait parler de psychologie plus que de médecine, mais il y a quand même des propositions thérapeutiques. Donc en fait, la sphère thérapeutique est large et elle déborde évidemment sur les psychothérapies. L'exemple que je prends pour le filigrane de secours, c'est l'exemple qui revient le plus souvent. Et j'avoue que des fois, j'aimerais bien en prendre d'autres. Il m'est arrivé de m'aventurer, notamment au travers du bouquin qu'on a fait avec mon collègue Pinceau, sur des thérapies manuelles, sur la chiropraxie. Je pourrais vous faire cours sur l'ostéopathie crânienne, je pourrais vous faire cours sur la fasciathérapie, je pourrais vous faire cours sur la kinésiologie appliquée. Mais ce sont des sujets qui sont moins achalandés, moins connus, moins discutés, quoi. Moins fréquemment utilisé. Alors celui qui est le plus utilisé de tous en France, sans conteste, c'est l'homéopathie. Donc je vous parlerai d'homéopathie. Et puis je vous donnerai mon numéro de téléphone si vous l'avez paumé et vous m'enverrez des questions de façon à ce que ce soit filmé et que le film ne soit pas interrompu et que ça nécessite beaucoup, beaucoup d'éditing pour les copains qui filment. Je ne prendrai pas les questions malheureusement ce semestre-là. D'ailleurs, généralement à la fin, ce que je faisais sur ce cours-là, c'est que le dernier quart d'heure, je le consacrais à une forme de débat. Je ne ferai que vous raconter ce que je fais d'habitude. Là, on ne le fera pas là parce que c'est infilmable et en plus, vous risqueriez d'apparaître à la caméra, ce qui n'est pas le but escompté puisque je n'ai pas le droit de vous exposer, vous, en tant qu'étudiant, à une caméra contre votre gré. Voilà, donc je vous raconterai ce qu'on aurait pu vivre, mais il vous suffira de revenir le semestre prochain pour faire un débat de ce type.